C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, la décision est tombée hier après-midi. L'ex-député du Parti québécois, Rod Lebel, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle par un jury. Et on sait qu'il y a eu quand même des causes célèbres médiatisées. Là, on pense à Roson Salvaille. Alors que les accusés avaient été acquittés, là, voilà qu'un accusé est condamné. Est-ce que ça va peut-être ramener un certain niveau de confiance envers le système de justice? Nathalie.
Oui, je crois que oui. Et ça, c'est une autre cause qui était très médiatisée, celle de l'ex-député du Parti québécois, Rod Lebel. Non seulement le message qui est envoyé aux victimes, c'est possible d'être entendu par le système, mais c'est aussi possible d'obtenir justice. Parce qu'on peut être entendu sans nécessairement récolter de verdict de culpabilité. Il y a eu plusieurs réactions suite à cette décision du jury. Neuf femmes et trois hommes qui ont été mobilisés pour entendre cette cause. On a senti que du côté de la plaignante et de la couronne, le verdict était accueilli avec soulagement. Mais du côté de la défense, et c'est le qualificatif qui a été utilisé par Maître Maxime Roy, l'avocat du député, c'est de dire, ben, on accueille la décision avec, c'est le choc. En fait, c'est un choc. C'est un choc parce que du côté de la défense, on était confiant des arguments qu'on a servi au jury. De toute évidence, ça n'a pas convaincu ces hommes et ces femmes qui ont été appelés à statuer sur la culpabilité ou non d'Harold Lebel. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire-là, au-delà du verdict qui était rendu, c'est le temps qu'a pris la justice pour rendre ce verdict. Deux ans avant qu'on puisse avoir cette décision, on était au palais de justice de Rimouski. Si on avait été au palais de justice dans un palais de justice de Québec ou de Montréal, probablement que ça aurait pris un plus grand nombre d'années. Alors la question que je me pose après ce verdict, est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement dans certains cas? Et là, je m'avance sur un terrain extrêmement délicat et glissant, mais je m'avance tout de même. Dans ce cas-ci, on était confronté à un cas, on parle d'attouchement, on parle d'un soutien-gorge dégrafé, on parle de baisers non sollicités. La justice a traité cette plainte-là comme on traite une histoire de viol ou d'agression violente ou d'inceste. On a mobilisé tout l'arsenal judiciaire pendant 2 ans, y incluant la constitution d'un jury. Dans un contexte où le système de justice a des ressources limitées, je pose la question. Pour accélérer les délais, pour faire les choses autrement, pour permettre au système d'être encore plus efficace et efficient et performant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives? Je pose la question. Sans minimiser, évidemment, les actes qui ont été reprochés à l'accusé. Je ne veux pas banaliser la plainte de la plaignante. Ce n'est pas ça du tout. Mais il me semble que la question se pose.
Ben, je trouve que tu as tout à fait raison de poser la question. Parce que d'abord, il faut féliciter la victime. Là, elle est passée par les voies légales. C'est pas une dénonciation MeToo. C'est pas une dénonciation Internet. Elle est passée par les voies légales. C'est ça qu'on voulait. On disait, pour le mouvement MeToo, on disait c'est terrible parce qu'il y a un processus d'annulation sans que les faits aient été analysés, sans que l'agresseur puisse se défendre. Là, c'est pas le cas. Donc, bravo, c'est la bonne façon de faire, puis c'est comme ça qu'on doit faire évoluer la compréhension de ce qu'est une agression sexuelle, puis de s'assurer qu'il y en ait le moins possible. Ceci étant dit, maintenant, on va prendre les faits tels que décrits par la victime, sans les remettre en cause, sans les remettre en doute, sans prendre la parole de l'accusé, puisque de toute manière, il n'a pas été cru. Donc, il aurait tenté de l'embrasser ou il l'aurait embrassé, c'est pas clair. Il aurait tenté de dégrafer son soutien-gorge ou il l'aurait défait par-dessus sa robe. Elle portait au moment où il l'a fait une veste et une chemise. Puis, il lui aurait demandé s'il peut s'étendre à côté d'elle. Suite à son acceptation, il a dormi à côté d'elle, puis elle dit qu'elle a passé une nuit interminable, qu'il l'aurait... Oh, là, c'est pas clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a taponné,
il l'a taponné toute la nuit.
Oui, c'est ça. Mais, tu sais, est-ce que... On n'a pas le descriptif des attouchements. Est-ce que c'est son corps seulement? Est-ce que c'est ses mains, etc.? Bon, là, c'est ce qu'on a devant les yeux. Compte tenu de ce qu'on a devant les yeux, est-ce qu'il aurait fallu qu'il démissionne? Premièrement.
Comme député, tu veux dire?
Oui, comme député. sachant que c'est ça l'accusation. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une gradation de la part de la police en disant, parce que on en a une gradation pour les meurtres, on a meurtre premier degré, meurtre deuxième degré. Là, on a une agression, c'est une agression reconnue, mais là, une agression, d'accord. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir une gradation? Parce que là, lui a démissionné 2 ans. Après ça, il pourra pas, il pourra plus jamais reprendre ses fonctions, etc., etc.
Les conséquences de ça. Mais il est expulsé du Parti québécois, lui, si je me trompe.
Oui, donc c'est la décision de l'institution. Voilà. Alors quand.
Mais il y a lui là, parce que je pense que la nuance là où elle est importante. Il dit que c'est jamais arrivé. On n'est pas dans quelqu'un qui dit je pensais qu'il y avait un consentement là.
Ouais.
C'est pas quelqu'un qui est en train de dire j'ai mal perçu les signes. Non, non, non. Il dit ce qu'elle me reproche, je l'ai pas fait. Moi, le jury l'a pas cru.
Ben écoute, ça c'est sa défense, puis elle a pas été bonne sa défense et c'est donc reconnu coupable. Parfait. Moi je prends la parole de la victime, juste la parole de la victime. Puis la parole de la victime, c'est ce que je viens de décrire. Donc compte tenu que c'est ça l'agression, je me pose la question de savoir est-ce que premièrement, je trouve que la question que tu as posée par Nathalie est très bonne, c'est-à-dire est-ce qu'on doit mobiliser tout l'appareil légal pour ça? Est-ce qu'on ne devra pas plutôt aller du côté d'une justice plus rapide, plus peut-être réparatrice, whatever? Mais est-ce qu'on doit... Tu sais, il y a 50 000 cas d'agression criminelle en attente, là. Il y a 50 000 cas en attente.
Mais, en tout cas, j'entends Nathalie, là, mais de la justice réparatrice, il faut que...
Tu reconnaisses sa culpabilité.
Ben oui,
lui,
il dit que c'est pas arrivé. Fait que tu peux pas...
Bon, donc, ça sera pas la justice réparatrice. Non, ça sera autre chose. Mais ouais. Si c'est de l'agression qu'on a devant les yeux, moi, je pense qu'il y a des milliers d'agressions au Québec en ce moment, là. Il y en a des milliers, là. Et le système de justice ne sera pas capable d'y répondre dans l'état actuel.
Voilà. C'est ce qu'on essaie de dire, Paul, Luc et moi, avec des mots différents. C'est que... Puis on en a parlé cette semaine. Ce qu'on entend dans les médias, c'est on finit par banaliser ce qu'est une agression. Moi, j'ai relu hier dans le code criminel ce qu'on entend par agression sexuelle. Écoutez, c'est violent là. Tu sais, il faut qu'on s'en prenne physiquement la personne. Et moi, encore une fois, je mets des gants blancs jusqu'au coude. Je veux pas minimiser. Puis Luc également, on veut pas minimiser le cas dont il est question ici et ni le banaliser. Les impacts que ça a eu sur la victime, etc. Sauf qu'on se dit, à chaque fois qu'il y a un cas d'inconduite, de harcèlement, est-ce que le système va pouvoir de justice déployer tous les moyens, tout l'arsenal à chaque fois? C'est extrêmement lourd, c'est coûteux. Et là, on voit le système de justice encore hier, la bâtonnière du Québec dit, écoutez, le système est sur le bord d'exploser. Là. Il manque de greffiers, de greffières, il manque de constables spéciaux. Les juges ne peuvent pas siéger, les avocats de la défense s'arrachent la tête, même chose du côté de la couronne. Là, on est comme des pompiers là, pour faire fonctionner le système de justice. Et là, on est confronté à des causes. Écoutez, 2 ans, heureusement que c'était à Rimouski, ça aurait pu prendre un nombre d'années encore plus important si ça avait été entendu, cette cause avait été entendue ailleurs au Québec, entre autres à Montréal. Les délais sont interminables pour certains dossiers dits criminels. Alors, la justice réparatrice n'est pas nécessaire. Dans ce cas-ci, ce qui pourrait pas se mettre en branle un processus qui porte un jugement sur la gravité de du crime qui a été commis. Tu sais, et comme Luc dit, pourrait-on procéder par gradation? Je sens que tu réfléchis, mon cher Paul, à tout ce qu'on te dit ce matin. Mais comment on peut, à partir de causes comme celle-là, faire évoluer le système? Parce que là, on oubliez ça, là, le système va imploser, ça continue.
Mais la justice réparatrice, c'est souvent dans des cas, puis là, tu sais, il y a des traditions, puis bon, où il n'y a pas nécessairement possibilité d'aller porter des accusations criminelles parce que la victime veut pas, ça peut être la première maudite bonne raison, ou encore parce que on est dans une zone où on reconnaît de, tu sais, où l'exemple, le gars va reconnaître que ce qu'il a fait, bon, ben c'est une forme d'inconduite, ça vaut peut-être pas un procès, mais ça vaut des excuses, puis ça vaut, bon. Mais, tu sais, dans le cas de quand ces cas-là, comme Lebel, c'est que Lebel, lui, sa défense depuis le début, c'est je l'ai pas faite. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça qui est
okay.
Donc, ça ne sort pas de la justice réparatrice. Non. Parce que ça peut être autre chose. Ce qu'on veut, c'est que la culpabilité soit reconnue. On veut qu'il soit reconnu coupable.
Mais moi, je trouve que la meilleure formule, c'est celle qu'on a vue dans le cas de Lebel. C'est-à-dire que tu exposes les faits, tu montres la preuve, tu entends la victime, tu entends des témoins, tu entends Lebel lui-même, puis le jury écoute ça, puis prend sa décision.
OK, je vais mettre autre chose sur la table. Si en amont de la plainte de la plaignante, dont on ne connaît pas l'identité encore, est-ce qu'on aurait pu, est-ce que le système pourrait proposer une autre option? Qui s'inspirait de la justice réparatrice, tu sais? Peut-être que, parce que la plaignante, elle a dit, moi, j'ai hésité avant de porter plainte parce que le député, il est apprécié, il est reconnu, c'est un bon gars, c'est une personnalité connue. Si on lui avait proposé une autre option, peut-être que les deux auraient pu se retrouver dans une même pièce, dans un cadre entouré, dans un cadre reconnu par le système de justice, ils auraient peut-être pu se parler. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Ben oui, absolument.
On aurait peut-être pu régler autrement la chose.
Parce que moi, je pense qu'en bout de ligne, là, ça va être quoi l'accusation? Ça va être quoi la peine qui va être infligée?
D'après l'avocat, non. On parlait avec un criminaliste ce matin, pas d'antécédent, quelque part entre 12 mois et 2 ans.
Est-ce que ça se pourrait que ça soit une absolution inconditionnelle ou conditionnelle?
Ça serait bien étonnant, mais tout est possible. Il y en a un gars qui a agressé sexuellement, mais lui avait plaidé coupable.
Puis n'oubliez pas, on ne connaît pas la décision de la défense. Est-ce que Harold Lebel va décider d'aller ou non en appel? Cette décision rendue.
Mais souvent, ça va être tough. Parce qu'aller en appeler d'une décision d'un jury,
Autre chose, il va purger combien de sa peine?
Boisclair, on l'a vu, le sixième.
Un sixième.
C'est essayé.
Mettons que c'est un sixième d'un an. C'est un sixième d'un an. Ben, je pense que là, je rejoins Nathalie en disant, OK, tout ça pour un sixième d'un an, en bout de ligne. Peut-être que dans des cas comme celui-là, on devrait avoir un autre processus, là. Parce que moi, je continue de. Hier, on a un système de justice sur le point d'imploser, là. 50 000 cas en attente, plus que 10 000 cas. Là, c'est pas juste 50 000 cas en attente, c'est 50 000 cas ayant sur le point de dépasser les délais de 18 mois de l'arrêt Jordan et qui seront libérés d'office. Fait que là, je me dis, il faut faire les choses autrement.
On s'arrête là-dessus. Au retour, tiens, la police de Longueuil perd son chef. La police de Montréal vient de trouver un chef.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, la ville de Montréal qui a choisi Fadi Daguerre pour être le prochain directeur du SPVM. La nouvelle va être confirmée à 13h, là, mais tout le monde le sait. Alors, est-ce que c'est le bon choix pour la ville, Luc?
À première vue, oui, absolument. D'abord parce que plusieurs choses, là. Tu sais, Fadi Daguerre, c'est pas comme s'il y avait... Il a beaucoup mis sa tête sur une pancarte en disant « Voici ce qu'il faut faire, et c'est de la police communautaire. » Pas pour autant qu'il a abandonné tout l'aspect répression, là. Il y croit encore, là. Moi, je lui ai parlé souvent, puis il m'a dit... Une fois qu'un jeune un gun dans les mains, là, on n'est plus dans la police communautaire, là, on est dans la répression. Puis il faut trouver où il l'a acheté, puis il faut trouver avec qui il se tient, puis on fait de l'enquête, puis on l'arrête, puis on le met hors jeu. Donc, les craintes de voir ce gars-là faire juste de la police communautaire ne sont pas fondées, à mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il a fait dans la police communautaire, c'est des choses qui se font dans les polices depuis longtemps. Là. Tous les postes de police montréalais ont des policiers socio-communautaires depuis des années, 20 ans, 30 ans. Là. Il y a un discours là-dessus aussi sur la nécessité de se rapprocher de la communauté. Mais lui, en fait, il l'a poussé plus loin. Ce qu'il a dit, c'est que d'abord, il y a deux projets phares, le projet réseau et le projet immersion. Le projet réseau, c'est le projet de dire, on est dans la rue. Et ça, c'est un projet qui vient de la ville de Montréal avant même d'être à Laval, sauf qu'à Laval, à Longueuil, ils l'ont boosté, puis ils l'ont encadré, puis ils l'ont paramétré. Mais il venait de la ville de Montréal. T'as un gars qui est dans la rue, il se promène, il parle aux commerçants, il parle aux groupes, il parle à tout le monde. D'habitude, ils sont à pied. Puis leur objectif, c'est s'il se passe quelque chose, ils voient. Tu sais, ils voient avant que ça se produise. Là. Ouais, il y a un itinérant qui se tient ici depuis une couple de semaines, il est complètement désorganisé, il est ici vers 10h, passe donc. Ou alors, attention, là, dans tel logement, là, ça crie, ça hurle tous les soirs, va donc cogner à la porte. Donc, c'est ça, on essaie de comprendre, d'intervenir avant que ça devienne criminel, avant que ça passe par la justice. Ça, c'est réseau. L'autre, c'est immersion. C'est-à-dire, les policiers, on comprend, là, vous avez eu des cours sur le communautaire et tout ça, là, mais est-ce que vous vous êtes promené avec un autiste fonctionnel, parce qu'il y a des autistes qui ne le sont pas, pendant une journée ou pendant deux journées? Est-ce que vous êtes allé dans une famille, une nouvelle immigrante qui parle ni français ni anglais et comprennent pas les règlements? Est-ce que vous avez ça dans la peau, là? Parce que ce qu'il dit, c'est 70% des appels, ce sont des appels sociaux. Ce sont des appels de ce type-là. Ce ne sont pas des appels criminels. 30% criminels, 70% sociaux. Alors, je pense qu'il a raison. Toute la question est de savoir, est-ce que la ville a les moyens de mettre en œuvre une police à la fois réseau et immersion?
Sortez les tambours et les trompettes, c'était la candidature à retenir. Oui, à Fadi, écoute, c'est devenu une star de la police. Moi, je suis une fan finie, là. Je dois vous dire.
On
là,
entend ça.
Parce que, oui, non, je suis une fan finie. Je ne le connais pas personnellement. Mais je suis une fan finie parce que ce gars, ce type a fait une chose que peu d'autres ont fait avant lui, c'est-à-dire qu'il a réfléchi en dehors de la boîte. Ça résonne chez toi, mon cher Luc, toi qui aimes ça, résonner en dehors de la boîte.
Oui.
Mais ça s'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Il a 25 ans d'expérience au SPVM. Je lisais ce matin dans la presse que ça fait 15 ans qu'il tente d'implanter une nouvelle approche dans le milieu de la police. Il a déclaré « Le policier n'est pas un travailleur social, mais il doit être un acteur social. » J'adore ça. En fait, le policier n'est plus un agent qui incarne la coercition, qui incarne la répression, il n'est pas seulement un spectateur, c'est celui qui peut faire une grande différence dans les transformations que connaît notre société. Il y a des défis, puis il faut prendre le soin, si vous permettez, de féliciter la mairesse de Montréal. Lorsqu'on a parlé de cette possible profil type pour le chef de police de la ville de Montréal, on se disait, ça prend quelqu'un qui saura être fort. Pas nécessairement, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et on craignait, Luc, tu rappelles-toi, on craignait que la police, que la caméra choisisse une femme parce qu'elle s'est beaucoup entourée de femmes depuis son nouveau mandat. Mais là, elle a décidé de s'entourer de gens forts, très forts, et c'est tout à son honneur parce qu'il y a Fadi Daguerre, mais il y a aussi Martin Prudhomme, entre autres, qui est directeur adjoint à la sécurité publique. Alors, comme on dit, la ville est équipée pour veiller tard maintenant. Elle se retrouve avec une équipe d'une très grande compétences à des postes clés. Il y a trois grands défis, selon moi, qui attendent Fadi Daguerre. Le premier, c'est rassurer les citoyens de la ville de Montréal. D'ailleurs, c'est une heureuse nouvelle pour les citoyens de la ville de Montréal, peut-être un peu moins pour Longueuil, mais quand même. Fadi Daguerre doit les rassurer sur le fait que leur ville demeure sécuritaire. Et malgré tout ce que les médias en disent, la ville de Montréal, par rapport à d'autres villes au pays, demeure la ville la plus sécuritaire, ou là où il y a moins de taux de cas d'homicide, soit commis par arme à feu ou lié aux gangs de rue. On a tendance à l'oublier, mais lorsqu'on se compare, on se console. L'autre chose, c'est qu'il devra mobiliser ses troupes, parce qu'il y a énormément... Il semblerait qu'il y ait énormément de scepticisme chez les policiers. Encore ce matin, dans l'article de la presse, certains accueillent sa nomination de manière positive, d'autres avec une certaine prudence. Il devra garder un équilibre entre répression et communautaire. S'est confié un policier ou un enquêteur sous le couvert de l'anonymat à la presse. Et je pense que ça, effectivement, il devra composer avec cette dichotomie qui est liée à son approche. L'autre chose, c'est projeter une image positive du SPVM dans un contexte où le SPVM a été beaucoup pointé du doigt, entre autres avec les histoires de profilage racial. Puis Luc, tu te questionnes sur les budgets. Est-ce que la ville devra déployer des budgets? Moi, je pense que la ville vient de marquer un tournant par rapport à toute la perception qu'on avait, est-ce que Valérie Plante veut définancer la police ou pas. Là, on entre dans un nouvel univers et oui, ça prendra davantage de budget, assurément.
Oui, ça va prendre des budgets, mais tu sais, en ce moment, pour les policiers, ils ont une chemise pour deux. Il y en a un qui fait le premier chiffre de 8 heures, puis après ça, le deuxième, il passe sa chemise au deuxième. Puis ça marche
pas. C'est l'image que tu utilises.
Oui,
on a
tous
compris, hein?
Il y a un crayon, faut pas trop s'en servir.
Ouais, c'est ça. Hey, arrête de peser dessus!
Ben oui.
Tu sais, parce qu'il y a plusieurs chefs de police qui se sont retrouvés avec cette situation-là. Là, il y a deux choses qui s'en viennent. Là. Une chose qui a été reconnue, les postes de quartier vont rester là. La mairesse a dit, les postes de quartier vont rester là. Caron a essayé de dire, est-ce qu'on pourrait les regrouper? Est-ce qu'on pourrait gérer ça différemment? Il s'est promené dans les postes de quartier, puis il s'est rendu compte que des fois, il y avait seulement deux gars qui étaient là. Puis que deux gars, tu fais pas de la police communautaire, tu fais rien, tu réponds aux appels, point final. Deuxièmement, il y a la caméra corporelle qui s'en vient. Caméra corporelle, très, très chère. On parle de dizaines d'employés pour recevoir l'information, la classer, l'archiver, la retirer lorsque il y a une demande qui est faite. Et puis, en plus du système lui-même, là, on parle au-delà de 20 millions de dollars. Donc, lui, s'il veut rajouter la police communautaire à ça, ça, c'est du monde, ça, la police communautaire. Là, dans un quartier, c'est 8-10 policiers qui se promènent, là, minimum. Fait que là, puis là, on a besoin de monde pour les inspections, pour les enquêtes et puis pour la répression dans le cas de la violence armée. Alors, ça pourrait, c'est là que le bas peut blesser. Là. Hier, on apprend que la ville va mettre 40 millions pour rendre le service en transport en commun gratuit pour les personnes âgées. Mmh. Aujourd'hui, on apprend que le service en transport en commun va être réduit parce que les fonds sont pas disponibles. Fait que là, la police, c'est pareil. Ah, aujourd'hui, on met du communautaire. Demain, on va apprendre qu'on coupe les policiers ou qu'on coupe les budgets. Moi, je me méfie, là. Je me méfie depuis qu'il y a eu cette décision malheureuse, extrêmement malheureuse, de mettre les taxes à zéro en 2019. C'était une erreur énorme qui a coûté et qui coûte encore de l'argent. Je pense que la Ville de Montréal n'a pas l'argent pour répondre à sa mission de base.
Mais on verra si les bottines suivent les babines, Luc. C'est souvent une expression qu'on utilise en politique parce que l'approche qu'il a implantée à Longueuil, Réseau, a été reconnue par la ministre, l'ex-ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Il y a des fonds qui ont été consentis pour cette approche. À un moment donné, tu ne peux pas faire des transformations sans obtenir les moyens nécessaires. Alors, je pense que d'une certaine façon, la mairesse et son administration se sont mouillés, là, dans le sens que je pense qu'ils n'auront pas le choix d'accorder les budgets dont tu auras besoin, Fadi Daguerre, pour réaliser sa mission.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. Ce sera vendredi, donc, le rapport des commissaires pour la semaine.
C'est 23.